a un an, je recevais la linguiste Marie Treps et l'écrivain Tahar Ben Jelloun pour une discussion autour des mots et des insultes racistes. Quelques mois après l'attentat de Nice, SOS Racisme s'inquiétait à l'époque de la multiplication des propos racistes, une conséquence selon l'association des attaques terroristes. Depuis quelques mois, les tensions engendrées justement par les attentats semblent avoir libéré la parole et les actes racistes. La linguiste Marie Treps s'est intéressée à la fabrique des insultes dans un livre Maudit mot qui est sorti chez Tohu Bohu, ouvrage dans lequel elle raconte comment a été inventée et imaginée cette logorée malsaine. On la retrouvera avec à ses côtés l'écrivain Tahar Ben Jelloun qui publiait lui en 97 au Seuil « Le racisme expliqué à ma fille ». L'émission étant enregistrée aujourd'hui, je ne pourrai pas recevoir comme tous les jours vos messages. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une enquête sociologique et mathématique sur les émeutes des banlieues en octobre et novembre 2005.
Oui, et des résultats intrigants puisque la propagation de ces émeutes partout en France est très similaire à celle d'une maladie infectieuse ou d'une hola dans un stade. On en discute avec le physicien Jean-Pierre Nadal.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne consacrée aujourd'hui aux analyses sanguines destinées à trouver des allergies alimentaires. Fanny Boyon réalise cette tête au carré préparée par Chantal Le Montagnier et Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La fabrique des insultes racistes, ce sera donc le dossier de l'émission dans quelques minutes avec mes invités que je salue, la linguiste Marie Treps et l'écrivain Tahar Ben Jelloun. Bonjour
à vous deux. Bonjour Mathieu.
Marie Treps, bamboula, youpin, nyakwe, bronzé, mangeur de chiens, voici quelques-uns des mots maudits cités dans votre livre et certains d'entre eux ne sont pas récents. Vous montrez que les secousses de l'histoire ont toujours entraîné avec elles la fabrique de ces mots. Hein.
Oui, à plusieurs reprises, la société française s'est trouvée en contact avec des autres, plus ou moins lointains. Et ça a favorisé le développement de courants racistes. Ça peut commencer de manière assez pas spécialement lourde, et puis s'alourdir au fil d'événements importants comme les guerres, les colonisations, les immigrations vers la France, peut-être aussi des immigrations qui ont suivi les époques coloniales, ou des guerres avec des proches voisins, ou aussi un racisme qu'on a appelé anti-judaïsme et aujourd'hui antisémitisme, qui est lui très ancien, puisqu'il date du Moyen-Âge, et c'est un autre de l'intérieur cette fois, c'est pas quelqu'un quoi, ouais. Et qui est là et qui est stigmatisé depuis longtemps.
C'est donc cette enquête que vous avez menée, on va en parler avec vous, Tahar Ben Jelloun. Est-ce que vous n'êtes pas désespéré par justement la libération de cette parole raciste, vous qui luttez inlassablement contre le racisme?
Non, il ne faut pas être désespéré, il faut être réaliste et continuer le combat parce que ça commence avec les mots, ça commence avec les insultes parfois un peu comme ça et ça se termine dans des chambres à gaz. Donc je dis toujours aux enfants que je vais voir dans les écoles, ouais. Et tout est grave, si tu dis ça à l'arabe ou ça à juif, sache que ça peut se transformer en quelque chose de beaucoup beaucoup plus grave et ils ne se rendent pas compte les enfants parce que finalement pour eux, c'est un jeu. Mais ce qu'il faut rappeler c'est que le racisme est planétaire, universel et toute société a ses insultes pour les autres. Et finalement tout le monde s'insulte. C'est partout la même chose. Et si on ne lutte pas par l'éducation, la pédagogie dès l'école primaire, ben ça va se répandre de plus en plus.
On en parle avec vous, bien sûr, dans quelques minutes avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de la Tête au Carré. Les émeutes généralisées après la mort de Ziad Ebouna en octobre 2005 se sont propagées en France comme une épidémie de grippe. Une étude très originale aujourd'hui à la une de la science.
Ce n'est pas Clichy, c'est Aulnay-sous-Bois cette nuit. La contagion dans les banlieues, le feu qui se propage dans les cités. 62 véhicules brûlés, 14 voitures à Bondy, 15 à Aulnay-sous-Bois, 10 à Neuilly-sur-Marne, 14 au Blanc-Mesnil. Un phénomène apparemment incontrôlable.
Et aujourd'hui, en 2018, grâce à la plus grosse analyse statistique jamais menée sur des événements de violence urbaine, une équipe pluridisciplinaire de chercheurs français propose un modèle inspiré de l'épidémiologie pour expliquer l'embrasement des banlieues françaises en 2005. Axel, pour en discuter, on reçoit un des auteurs de ce travail paru dans la revue Scientific Reports.
Oui, nous sommes avec le physicien Jean-Pierre Nadal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS, au Centre d'analyse et de mathématiques sociales. Alors, quelles sont les caractéristiques communes à la propagation de ces émeutes avec une épidémie de grippe?
Oui, alors tout d'abord, il faut dire que l'analogie n'est pas entre les émeutiers et les malades.
Oui.
Il ne s'agit pas de considérer que ces gens sont des malades à soigner. L'analogie est sur le processus de contagion. Donc ce qu'on a pu constater, en fait on n'est pas les tout premiers à voir cela, c'est qu'il y a le mécanisme pour se joindre à l'émeute et quitter l'émeute ressemble beaucoup à ce qu'on peut observer par exemple pour une grippe où on va être contaminé, être malade pendant certains jours, puis guérir. Et une fois qu'on est guéri, on ne peut plus être de nouveau contaminé, du moins pour cette période. Et c'est un peu ce qu'on observe dans la diffusion de ces émeutes. Et ce qui est très particulier ici, c'est que ces émeutes ont été d'une ampleur absolument exceptionnelle. Elles ont touché vraiment toute la France sur une durée d'environ 3 semaines. Et ce qu'on a pu voir grâce à l'analyse de données qui viennent de la police, c'est qu'en fait, on a une propagation de ville à ville qui suggère donc une propagation d'abord par proximité, pas nécessairement à la commune juste à côté, mais en tout cas une commune proche. Et donc on a une diffusion de proche en proche et qui va aller sur toute la France.
Comment est-ce que vous avez fait pour construire ce modèle ou l'adapter de l'épidémiologie ?
Alors en fait, on a fait tout un travail de comparaison entre les données et une famille de modèles, plusieurs familles de modèles. On a cherché quelle était la famille de modèles qui correspondait le mieux et on a trouvé que c'était des modèles de propagation d'épidémie qui marchaient le mieux.
Et pourquoi ça se ressemble alors ? Pourquoi on peut l'utiliser ?
Parce qu'on va essayer de mettre des ingrédients absolument élémentaires pour décrire ce qui se passe. On décrit une échelle assez grossière, c'est-à-dire ce que l'on va décrire, c'est le nombre d'événements de type émeutier dans chaque commune. On va pas regarder le détail, est-ce que ce sont des voitures brûlées, des affrontements avec la police. Et à cette échelle-là, ce qu'on voit, c'est on a une forme standard à peu près dans chaque commune, où le nombre d'événements croît, puis décroît de manière assez douce. Donc le retour au calme se fait de manière assez douce et ça ressemble beaucoup donc à la forme d'une épidémie. Et le mécanisme a des propriétés qui ressemblent beaucoup aux contagions dans une épidémie, c'est-à-dire que dans une épidémie, on est contaminé par contact avec d'autres gens. Là, c'est pas exactement par contact, mais c'est parce qu'on est témoin ou au courant d'événements violents dans le voisinage ou pas trop loin. Et on est sensible, là, un peu à la masse. Donc on voit en particulier tout un groupe en train d'agir, on se joint au groupe. Donc c'est une contagion de comportement, et d'ailleurs des sociologues dans les années 70 aux États-Unis ont parlé d'épidémie comportementale. On propage le comportement et non pas un virus.
Est-ce que comme pour une épidémie, il y a des zones du territoire français qui étaient immunisées ou plus sensibles à cette vague de violence ?
Comme on le sait par tout ce qui a pu être dit à l'époque, ces émeutes ont eu lieu dans les quartiers défavorisés, les quartiers pauvres, et l'analyse des données le confirme de manière assez spectaculaire. C'est effectivement qu'il n'y a que ces quartiers qui ont été touchés. Donc dès qu'il y a un certain niveau disons matériel qui existe, à ce moment-là, il n'y a aucune participation, donc aucune susceptibilité à participer à l'émeute. Mais par contre, on a l'impression qu'absolument tous les quartiers pauvres ont été touchés, donc plus ou moins fortement, mais ont été touchés.
Donc pas d'exception ?
Peut-être Paris, sans doute, parce qu'il y a eu des mesures très spéciales prises pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit à Paris. Peut-être même un blackout sur la formation, je n'en sais rien, parce qu'il y a eu quand même quelques petits événements isolés, mais il y a eu des mesures très spéciales pour éviter qu'il se passe quoi que ce soit à Paris.
Qu'est-ce que ce genre de modèle mathématique, vraiment purement mathématique, nous dit de la violence en général et de sa propagation dans nos sociétés alors ?
Alors, en général, je ne sais pas, parce qu'on a des conditions très particulières. Si un peu le même genre d'événement commençait aujourd'hui, je ne sais pas si ça se passerait de la même manière. On peut signaler que, par exemple, les émeutes de 2011 en Angleterre ont donné lieu à des choses assez différentes. Donc je ne sais pas si on peut dire des choses générales, mais malgré tout, ce qu'on observe semble commun à beaucoup d'émeutes qu'on peut dire, en tout cas, plus ou moins spontané, c'est-à-dire pas de revendications politiques ou syndicales. On a l'impression qu'avant tout, les gens crient leur colère et après, ils se calment. Ils se calment peut-être parce qu'ils sont attrapés par la police ou peut-être parce que des médiateurs les ont convaincus, mais en tout cas, ils se calment. Et ça, donc, ça ressemble à des choses vues dans des émeutes aux États-Unis dans les années 60, ou d'autres émeutes ailleurs. Donc il y a certainement quelque chose d'assez mécanique qui se produit, donc avec cette excitation au début et cette relaxation après, encore une fois, lorsqu'il n'y a pas de mouvement pour inciter à la prolongation de l'activité sur la base de revendications politiques ou syndicales.
Vous faites aussi l'analogie avec la hola dans un stade. Tout autre sujet, on suspecte souvent les réseaux sociaux d'être un peu le terreau de ce type de mouvement. Est-ce que votre étude permet d'infirmer ou d'affirmer cette question, ce débat ?
Alors, on, En 2005, les réseaux sociaux tels qu'on les entend aujourd'hui en sont à leur balbutiement. De Facebook, je crois que ça démarre en 2004. Donc, ouais. C'est l'usage des réseaux sociaux comme aujourd'hui n'est pas encore majeur, mais il y a l'usage des téléphones. Donc, certainement, les gens communiquent par téléphone mobile, mais aussi, tout simplement, ils sont au courant par les médias. Ce que l'on voit par notre analyse et qui est conforme à ce qui a été observé dans plein d'autres situations, c'est que malgré la possibilité d'être au courant d'événements partout dans le monde de manière quasi instantanée, on est d'abord sensible à ce qui est proche de chez soi. Donc ça peut être parce qu'on connaît des gens et que donc on est en contact direct avec eux. Ça, donc ça, c'est un réseau social au sens où on l'entend en sociologie, le réseau des gens avec qui on interagit. Mais ça peut être simplement qu'on est mis au courant et parce que c'est pas très loin de chez soi, on réagit d'une manière émotive plus forte que si c'est éloigné.
Jean-Pierre Nadal, très vite pour terminer, à quoi ça peut servir un outil comme ça ?
Alors déjà, à poser de nouvelles questions et à essayer de comprendre un peu justement les mécanismes de ces mouvements. Ce que permet la modélisation mathématique ici, c'est de mettre en évidence une vraie vague, donc comme la ola dont on a parlé, où vous lancez un caillou dans l'eau et vous avez une onde qui se déplace, et on voit ce côté mécanique qui se produit. Et cette vague, on ne la voit pas simplement si on regarde les données comme ça brutalement. Ce n'est pas évident parce que ça se propage de manière sur un réseau très hétérogène de milieux défavorisés. Et donc la modélisation permet de mettre en évidence l'existence de cette vague.
Merci beaucoup Jean-Pierre Nadal. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous signez, vous êtes un des auteurs de ce travail paru dans Scientific Reports. Merci beaucoup à vous et Axel, à demain.
À demain.
Merci à vous.
Les bienfaits des coups de pied des bébés, ne vous laissez pas attendrir par leurs grands yeux et leurs pieds potelés sur les images de l'échographie. Dans l'utérus, les petits ne sont pas si doux et peuvent même frapper fort à partir d'une nouvelle technique d'imagerie. Des chercheurs anglais ont observé une augmentation de la force de leurs coups de pied à partir de 20 semaines de gestation, se poursuivant jusqu'à la 30e. Au-delà de celle-ci, leur puissance diminue. D'après eux, les bébés en bénéficieraient de cette activité de deux manières. Cet exercice accompagne le développement des os et des muscles. Et de la même manière, le stress et l'effort produit sur les articulations favorisent leur bon développement et pourrait empêcher l'apparition d'arthrose. Non, le vélo n'a pas d'effet sur l'érection, c'est ce que montre une nouvelle étude publiée dans The Journal of Urology et qui vient contredire d'anciens travaux sur le sujet. Pour cela, les chercheurs de San Francisco ont interrogé près de 3000 cyclistes divisés en deux groupes selon l'intensité de leur pratique. Et selon eux, la santé urinaire et sexuelle des cyclistes est comparable à celle des nageurs et coureurs qui faisaient aussi partie de l'étude. Ils semblent juste plus exposés à certains risques comme un rétrécissement de l'urètre. Par ailleurs, ce sont les cyclistes intensifs de l'étude qui présentaient le meilleur fonctionnement érectile du fait du temps qu'ils passent debout. Et puis pour terminer, une vidéo des capacités exceptionnelles d'un mini-robot tout plat. Il s'appelle Mili Delta, capable de faire jusqu'à 75 mouvements par seconde. Il est constitué de feuilles de matériaux composites pliés. C'est en s'inspirant des origamis et des livres animés que les chercheurs d'Harvard ont eu l'idée de créer ce nouveau type de robot. Il pourrait être utilisé notamment pour minimiser les tremblements des chirurgiens ou pour des systèmes mécaniques très légers. La vidéo est à retrouver sur le Facebook de l'émission. Et les mots du racisme, c'est le dossier dans un instant.
Yeah.
Super Organism, Everybody Wants to be Famous.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Avec les mots du racisme cet après-midi dans le dossier de l'émission, la linguiste Marie Treps, vous êtes sémiologue, linguiste, chercheur au CNRS et donc vous publiez chez Tohu Bohu, Maudit mot, la fabrique des insultes racistes. Ahar Benjelloun, vous êtes écrivain, prix Goncourt 87 pour La Nuit Sacrée et puis en 98, vous sortiez au Seuil, Le racisme expliqué à ma fille, qui a été un énorme succès dans le monde entier, qui continue toujours à être réédité régulièrement.
Avec d'autres textes, parce que c'est revu, corrigé, augmenté, parce que le racisme ne s'est pas arrêté avec mon bouquin, hélas.
Bien au contraire. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Oui, ça a toujours existé quand même.
Mais on en parle plus facilement.
Oui, et la période que nous vivons par rapport à même 98 a quand même beaucoup changé dans
ce domaine-là. Ah oui, une espèce de banalité, des insultes, oui bien sûr.
C'est ça, ouais.
Et une augmentation des lois.
Et oui, et pourtant, les mots n'ont pas disparu loin de là. Hein, on les contourne autrement, d'ailleurs, ces lois.
Oui, Marie Treps, on les contourne.
Vous l'évoquez dans cet ouvrage. Oui. Comment, justement, d'abord, j'aimerais vous demander, comment vous êtes ressorti, vous, de cette enquête, après avoir écrit donc, ce livre qui recense les insultes racistes des plus insignifiantes aux plus outrageantes?
C'est comment j'y suis rentrée, la question. C'est-à-dire que ma curiosité pour les mots et ce qu'il révèle de notre société et de son imaginaire devait un jour ou l'autre, bon gré mal gré, me conduire à ces mots-là.
Et on est loin des mots caresses, par exemple.
On est loin des mots caresses, c'est l'inverse. Ouais. Oui. Et j'en suis sortie. J'ai l'impression d'avoir compris quelque chose, et c'est ce que je voulais faire. Et surtout, je me disais, quand me suis aperçue que ces insultes, contrairement à ce qu'on entend aujourd'hui, qui donne l'impression que c'est récent, la parole raciste se libère. Oui, se libère, mais c'est très ancien. Et je me suis demandé comment c'était venu, ça n'arrive pas par hasard, par quels événements. Le plus simple pour essayer de comprendre, c'était de faire l'histoire. Et je me suis engagée sur ce chemin-là. Et aussi, j'ai voulu prendre la forme d'une sorte de dictionnaire pour regarder le côté des définitions... neutre comme ça, comme dans un dictionnaire, mais en même temps je perdais toute la violence de la chose, de la réalité. Aussi je me suis attachée à trouver, vraiment à chercher des exemples très anciens. Le plus ancien dans ce livre est un exemple de Ronsard qui concerne les Juifs, et jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle dans les romans, dans la littérature, et aussi des exemples choisis en fonction de chaque époque. Il y a des pics, il y a des moments, par exemple, prenons l'exemple des Juifs. Bon, le mot juif est un mot qui se charge de connotations très négatives dès le début, mais les pires mots, youpin, youtre, ils arrivent au XIXe siècle, pendant la Troisième République, ils font partie du débat public, ils sont là dans les journaux antisémites. Et donc, et à ce moment-là, j'ai voulu citer des écrivains qui donnaient le reflet de la société aussi, aussi bien des textes qui sont faits par des gens qui sont racistes ou xénophobes, que des textes faits par des gens qui ont subi la chose et qui racontent, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est vrai que c'est une sorte d'enquête, comme vous le disiez tout à l'heure, et que j'ai fait au mieux pour la mener, et j'espère, à la fin du compte, que j'ai fait œuvre salutaire.
Ouais. Vous étiez heureuse quand même de mettre un point final aussi à cet ouvrage, parce que baigné en permanence dans ces mots du racisme, j'imagine que c'est une expérience aussi assez désagréable,
Avec une sorte de passion, de curiosité, c'est vrai, et de rage. J'étais enragée à faire ce livre et je voulais vraiment le faire. Et trouver un éditeur qui me suive, et c'est ce que j'ai fait.
Avec Tohu Bohu, en l'occurrence. Ahar Benjelloun, expliquer les mots, retracer leur contexte historique, ça c'est une bonne façon de s'attaquer justement à ce problème.
Bien sûr, parce qu'il faut remonter à l'origine des choses et d'où ça vient. Alors évidemment que dès qu'il y a un déplacement de population, immigration voulue ou pas voulue, l'accueil est toujours accompagné de mots racistes.
Ça c'est une constante, hein, vraiment.
Oui, c'est une constante. Ouais. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est de trouver l'inventivité, l'imagination populaire, parce que il n'y a pas une seule personne qui fait ça, c'est un peu comme ça. Alors évidemment, parfois ça part du physique, les melons pour les Arabes. Alors youpin, c'est un mot assez hideux et que j'ai souvent entendu, et je me suis dit mais pourquoi youpin? copain. Ouais. Et parfois, il suffit que le mot soit hideux pour qu'il soit raciste.
Ouais. Oui, c'est sûr.
Quand on, par exemple, on dit des Italiens rital ou macaroni, c'est moins hideux que youpin, parce que rital, c'est une forme un peu inversée du.
Oui,
d'italien.
Mais en fait, c'est, rital, c'est, ça vient de l'émigration, justement, oui. Parce que le racisme aussi vis-à-vis des Italiens vient en grande partie de là, avec l'immigration économique. Ils sont venus à la demande de la France, qui manquait de main-d'œuvre. Oui. Mais après, dans les crises économiques,
ils ont été
aussi stigmatisés.
Donc la sonorité
mais,
du mot.
Mais c'était sur leur papier, on écrivait la mention R. T-A-L, ce qui voulait dire réfugié italien.
Ah oui, donc c'est de là que ça vient. Oui, les mots sont choisis. Les insultes de bassesse, ils ont souvent une connotation sexuelle aussi. Mm-hmm. Alors par exemple, pour les Noirs, en arabe, on utilise abd, ça veut dire esclave. Mm-hmm. Azzi, c'est-à-dire qui est très 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 noir, c'est nègre. On utilise kahlouche qui est une forme de nègre mais sale. Ouais. Et ça, les gens le comprennent sans savoir le vrai mot.
Ouais.
Dire de quelqu'un de kahlouche, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait noir, il est sale.
Ouais. Mais il y a des nuances incroyables. Hein.
Vous voulez dire que c'est dans la sonorité du mot que ça s'entend ?
Oui.
C'est ça que vous voulez dire ?
Oui, mais en même temps, il choisit les mots. Alors, évidemment, c'est très répandu et c'est parfois, ça part de, parfois de la cour de récréation des écoles aussi.
Bien sûr.
Et les parents.
Celui qui n'est pas tout à fait, qui est trop grand ou trop petit, ou trop gros ou trop maigre.
Et les parents reprennent le relais.
Et là, c'est la même chose.
Vous arrivez à aller vraiment à la source des mots, Marie-Thérèse.
Ah oui, sûrement. Ouais. Bah, moi, j'ai d'abord un linguiste avec ses manies de linguiste. Je cherche. Souvent, j'ai la date d'introduction, l'année d'introduction d'un mot dans une langue.
Par exemple, c'est très précis.
Bougnoul. Et alors, tous ces mots-là, comme bougnoul, bamboula, au début, ce que je disais en introduction, c'est qu'au départ, ils ont été recueillis, on a été faire des voyages exploratoires. On a vu des gens qui avaient l'air de s'appeler Bougnoul. Effectivement, c'est un mot wolof qui s'appelle, qui signifie noir. On recueille le mot. Mm-hmm. Effectivement, comme Schleu, il a été recueilli par les anthropologues et les linguistes. C'est le nom d'une.
Et
puis après, on le donne. Il s'alourdit au fur et à mesure de la colonisation. Oui. Le Bougnoul, on le retrouve. Le mot Bougnoul, on le retrouve dans l'infanterie et la marine coloniale. Et c'est celui qui fait les corvées. Oui. Mais c'est très intéressant de suivre justement d'un bout à l'autre un mot, parce qu'ensuite on va le retrouver pour désigner les Maghrébins, mais en particulier les Algériens. Pendant la colonisation de l'Algérie, le racisme s'aggrave avec la guerre d'Algérie, et ensuite quand les immigrés arrivent en France, fuyant la guerre ou après la guerre, après la fin de l'Algérie française, le mot Bougnoul suit. Et à ce moment-là, on retrouve en France des gens qui sont pauvres, qui font les basses besognes. Et ce qui est le sémantisme, pour employer un gros mot, c'est-à-dire le sens précis du mot qui était là dès le départ, celui qui est corvéable, et il nous a suivis jusqu'aujourd'hui, même si on n'en a pas conscience.
Dominique sur franceinter.fr nous dit: est-ce qu'il ne faudrait pas désacraliser l'insulte? Est-ce qu'on peut tout dire avec humour? Vous parliez des macaronis tout à l'heure, on pense au roast beef, etc. Et nous, les mangeurs de grenouilles.
Avec humour, oui, mais en même temps, il faut faire attention parce que ça peut se transformer en insulte grave. Je voulais revenir sur le mot schleu. C'est un mot arabe. Enfin, c'est parce que ça vient les berbères du sud du Maroc. Je vois pas du tout le rapport entre schleu et allemand.
Oui.
Parce que finalement,
il y en a un. Mais oui, il est très tordu.
Oui, très tordu, exactement, comme vous le montrez. Mais c'est quand même curieux. Je me suis dit, mais comment ce mot a voyagé? Du sud du Maroc jusqu'à la guerre, Deuxième Guerre mondiale.
Alors Marie Trebs.
Eh bien, il est arrivé par les Schleu, donc c'est une tribu et sa langue, langue Schleu.
Ouais.
Et dans l'armée qui était en Afrique du Nord, ça désignait les indigènes, mais avec ce présupposé fort que ils parlent pas français. Ils parlaient pas encore français.
Mais...
Ensuite, ça arrive avec les soldats qui viennent d'Afrique du Nord et qui se retrouvent dans les tranchées. Et là,
pour défendre la France.
Pour défendre la France.
Et on traite les Allemands du nom de ceux qui défendent la France.
Oui, mais c'est ça. Mais c'est surtout à ce moment-là, on le donne à tous tous ceux qui ne parlent pas bien français. Il y a aussi bien des Polonais dans les tranchées que des Français.
Oui.
Et ensuite, dans la région de Metz, parce que c'est tout ça la guerre 14, on l'associe aux Allemands qui parlent mal français. Et alors, c'est un retournement, parce que depuis le berbère qui à la peau sombre qui nomanise, devient l'Allemand blond qui se bat au nom de la suprématie, de la soi-disant suprématie de la race blanche.
Et le mot berbère veut dire celui qui balbutie la langue, qui a donné barbare. Barbare, celui qui ne parle pas notre langue. Donc berbère, barbare.
Est-ce que c'est raciste de la part des Arabes qui ne sont pas berbères ?
Mais bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion autour de ces maudits mots et de la fabrique des insultes racistes.
Century Fox présente rien qui n'ait d'importance. Ton corps détox me tente, je me sens tombé pour la transe. Oh, oh, dans ce bungalow sans boule la facette. L'amour, l'amour, ton anus sans étoile. L'amour, 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 toujours. Des étoiles plein les yeux. L'amour, encore, encore partir. Encore, non. Même si la mer se retire, moi je rentre et je sors un peu encore. Century Fox présente, oulala, que les guides s'absentent. Fahrenheit, Celsius, tout augmente. On ne fait ni l'amour ni la guerre, mais entre. Oh, oh, même dans cet album, à l'être que se lettre. L'amour, l'amour, ton anus sans étoile. L'amour, 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 toujours. Des étoiles plein les yeux. L'amour, encore, encore partir. Encore, non. Même si la mer se retire, moi je rentre et je sors un peu encore. Je sens battre ton cœur, alors je sors et je rentre. Tu balades tes mains sur mon corps, entreprenante, je t'aime tellement fort.
Benjamin Biolay, Chiara Mastroianni, encore, encore.
La tête au carré sur France Inter.
Marie Trepstar, Benjeloun, nos invités donc pour parler des mots racistes avec vos messages qui arrivent sur franceinter.fr. Marie Trepstar, vous souhaitiez compléter la réponse à la question de notre auditeur le fait de pouvoir dire avec humour des mots qui parlent aussi des autres.
Oui, mais même on n'a pas besoin des mots à ce moment-là avec l'humour. Aujourd'hui, le fait que ce soit sanctionné, la prononciation de ces mots-là dans l'espace public, on a des stratégies d'évitement. Et une des stratégies d'évitement qui fait mouche, c'est de prendre les choses avec humour, de dire les choses avec humour. Les hommes politiques qui sont racistes ou antisémites, enfin, ou les amuseurs publics qui en font profession aussi, se gardent bien d'employer les maudits mots. Mais ils parlent par insinuation, éventuellement avec l'humour, ça passe encore mieux.
Oui.
Le sucre de l'humour fait passer le poison du racisme.
Mais il y a
c'est vrai.
Les insinuations qui sont beaucoup plus graves.
Bien sûr, qui passent mieux parce que c'est un peu drôle. Donc c'est comme quelque chose de sucré qui fait avaler le poison.
Ouais, Tahar Benjelloun, justement, l'insulte xénophobe, elle est aujourd'hui portée sur la place publique en raison des sanctions juridiques. On en parlait tout à l'heure. Mais pour autant, le racisme et les mots du racisme n'ont pas disparu. Justement, on les contourne habilement.
On les contourne et de toute façon, on ne fait pas assez d'éducation pour enrayer le racisme. C'est-à-dire que finalement...
Ça fait partie de vos propositions concrètes.
Oui, bien sûr. Vraiment. Il faut que ce soit à l'école qu'on commence à vraiment faire la lutte à tous ces préjugés, à tous ces mots ridicules, pas forcément le racisme de peau ou de religion, mais aussi le racisme vis-à-vis des différents, des garçons ou des filles qui ont une différence, soit physique, soit mentale. Bon, les handicapés notamment, ou ceux qui ont une orientation sexuelle qui n'est pas majoritaire. Donc c'est un peu la lutte contre tout ça, mais que ça doit faire partie du corpus de pédagogique. C'est-à-dire, comment on enseigne l'histoire, la géographie, on doit enseigner en permanence la lutte contre le racisme, mais d'une manière permanente, pas un jour par an, mais tous les jours, qu'il y ait une espèce de, que ce soit inclus dans tous les cours, que rappeler que nous sommes tous différents, nous sommes tous semblables, et on ne doit pas tous s'aimer, c'est pas possible, mais on doit tous se respecter.
En 2006,
oui, je crois que le racisme, ouais, c'est vient de ce qu'on perçoit une différence existe, de manière négative, et qu'on en fait une altérité indestructible, enfin irréversible.
Comme on dit, la nature a créé des différences et la société en a fait des inégalités.
Voilà.
En 2006, Caroline Cartier se demandait ce que la négritude était devenue. C'était à l'occasion du premier printemps des Assises Nègres qui avait lieu à la Maison de la Chimie à Paris en 2006, avec des intellectuels africains qui s'étaient réunis autour du thème de la négritude, cher à Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire.
Oui. Vibre. Vibre. Mot. Le mot nègre. Vibre. En lasso ou me prendre. En corde ou me pendre. Nègre.
Moi, je me sens noir, pas nègre. Noir parce que c'est ma couleur de peau. Noir parce qu'on est africain. Noir parce que ça nous définit. Nègre veut dire une position subalterne, une position où, en fait, le noir est relégué à la place un peu de subordonné.
Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, en fait. C'est l'idée aussi du mouvement La Négritude. Justement, c'est que ce mot veut dire tout simplement noir, d'accord ? Et même si cette connotation négative a existé, maintenant elle n'existe plus. Et même si de temps en temps, on entend des racistes dire nègre, machin, ça n'a plus le même sens. Maintenant, on s'est approprié le mot et les rappeurs disent nigga, négro. C'est qu'on a exorcisé, en fait, le mot nègre. On l'a exorcisé, on l'accepte, quoi. Donc, ça ne choque pas. Enfin, moi, personnellement, ça ne me choque pas. Voilà, je suis nègre.
Et comme le mot soleil est un claquement de balles, et comme le mot nuit un taffetas qu'on déchire, le mot nègre, dru. Savez-vous, du tonnerre d'un été, que s'arroge des libertés incrédules.
Voilà, extra intéressant pour parler justement de ce mot nègre, parce que j'ai une question à vous poser. Est-ce que finalement il n'y a pas un racisme à géométrie variable selon l'acceptation des mots? Parce que certains ne sont pas gênés avec ce mot nègre.
Mais là, dans la négritude, ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des poètes qui ont repris le mot et ils l'ont aggravé exprès et ils ont fait une réponse de poète par la poésie, par la grandeur d'âme. Et Aimé Césaire, très très grand poète, Senghor aussi, ils ont répondu à la haine et à ce mépris par quelque chose de beaucoup plus beau. Et c'est vrai que la négritude qui était très contestée, on l'a vu dans cette émission, mais depuis les années 40, a été très contestée parce que elle n'a pas été toujours bien comprise. Mais c'est bien qu'on reprend le mot, on reprend l'insulte et on le piège.
Ouais, on voit l'évolution des mots là aussi, c'est ça qui est fascinant dans cette histoire, Marie Trebs.
Nègre, effectivement, il sentira toujours un peu l'esclavage. Hein. C'était au XVIIIe siècle, c'était nègre signifiait exactement esclave noir. On comptait en termes de prix, un nègre coûte ça, parce que bon, sur les marchés d'esclaves. Et puis, avec les philosophes des Lumières et l'abolition de l'esclavage, on a commencé à essayer d'évacuer ce mot-là. Ensuite, on l'a évacué vraiment au profit de noir. Ouais. Qui lui-même pose des problèmes. Parce que selon qu'il est avec la majuscule ou la minuscule,
absolument.
Un jour qu'on demandait au président de SOS Racisme s'il avait écrit noir avec une majuscule, est-ce que ce n'était pas avant tout politique pour affirmer qu'effectivement le peuple noir existait vraiment, il a répondu, je ne sais pas si c'était avec humour, mais il a répondu qu'il pensait simplement appliquer une règle grammaticale, un nom de peuple d'individu au pluriel. Eh bien, on met une majuscule.
Voir, c'est
mais
pas une nationalité.
Enfin, c'est un groupe d'individus. Si vous dites les Bleus ont gagné le match,
les Bleus,
on mettra une
majuscule. Football, c'est pas
on
un
mettra
peuple.
Une. Ben, non, mais ça concerne aussi une entité, un groupe d'individus. par exemple pour les Bleus, notamment. Bon, alors à ce moment-là, on a. Mais alors noir peut encore poser des problèmes. Et aujourd'hui, il y a des stratégies. Enfin, ça nous, c'est pas des stratégies spontanées. Les institutions nous l'insinuent comme ça. On va dire gens de couleur. Et puis c'est encore embêtant.
Mais il y a pas
alors
de
après,
racisme.
On va dire issus de la diversité ou minorité visible. Ouais. J'ai même entendu un anthropologue tout à fait respectable il y a une semaine qui, pour éviter le mot, disait personne d'apparence différente. Alors d'abord, c'est long comme ça. Et ensuite, ça veut dire que ça manifeste toujours une gêne, ouais, tous ces mots qui permettent d'éviter, enfin, qui sont censés éviter.
Tara Benjelloun.
Oui, moi,
on peut excuser la gêne. Mais oui, il y a de la maladresse.
Je peux ajouter que le racisme disparaît pas parce que le mot, il y a des expressions qui sont tellement ancrées. Par exemple, Jean-Paul Guerlain qui dit je travaille comme un nègre et ça a fait.
Oui, mais ça, c'est des expressions qui sont passées dans le langage courant.
Oui, qui sont passées dans le langage courant. Mais quand même, reproché vivement.
Non, mais j'ai une anecdote que je raconte dans le livre. Un de mes enfants à l'époque était en maternelle et puis il me parlait toujours de Max, mais son meilleur copain. Etc. Et je lui dis, il me dit, est-ce que je peux inviter Max à la maison? Je lui dis, oui, bien sûr. Et ce Max est arrivé, il était noir, noir, noir. Jamais mon fils ne m'a présenté son copain comme noir. Ouais. C'est Max, point de ligne. Ça, c'est l'enfant avant la contamination,
c'est ça,
l'environnement social.
Justement, Jean demande, est-ce que le racisme touche toutes les couches sociales d'une société?
Mais bien sûr, mais enfin, ça, il n'y a pas. Et alors, l'expression est différente aussi. Évidemment, non, bien sûr que ça touche tout le monde et il faut être simpliste pour croire que ça touche pas tout le monde. Ça touche toutes les couches sociales et tous les âges.
Ouais. Il y a aussi le mot Nyakwe qui désigne péjorativement les Asiatiques, nous dit Jack, alors qu'au Vietnam, les gens se traitent mutuellement ainsi, de manière assez amusante, pour se traiter de paysans, de pécores, car c'est en vietnamien le sens de ce mot.
Exactement, et c'est venu avec les colons en Indochine, et ensuite, mais aussi pendant la guerre, la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam, c'était aussi le nom de l'ennemi utilisé par les Français.
Ouais.
Donc pour nous, il a aussi ce sens-là de très péjoratif. Et c'est vrai que ça fait partie des procédés pour nommer l'autre.
Quand on se sent supérieur, on est obligé d'insulter.
Exactement. Et qu'on veut se sentir supérieur, qu'on marque sa supériorité, on est obligé d'insulter. Et de prendre chez l'autre un trait caractéristique. Bon, il y a beaucoup de paysans, c'est son activité normale des Vietnamiens, comme si tous les Vietnamiens étaient des paysans. Alors, on va prélever le mot, comme tout à l'heure, tous les Italiens mangent des macaronis, on va les appeler des macaronis, oui. C'est un procédé d'argot, au fond, l'argot fait ça.
François nous dit, j'ai connu le mot racisme à 11 ans en entrant au collège, en me faisant traiter de sale français. Je m'étonne toujours qu'on parle peu de ce sujet. On évoque le racisme anti-noir, anti-arabe, anti-jaune, mais jamais le racisme anti-blanc. Vous estimez qu'il existe très peu, qu'il n'est pas violent, qu'il ne vaut pas la peine qu'on l'évoque. Tara Benjelloun.
Non, bien sûr que ça existe, mais c'est pas le plus répandu. Évidemment, dans une classe où il y a une majorité de gamins issus de l'immigration, peut-être qu'ils voient le français avec une sorte de supériorité. Oui, ça existe, mais c'est pas le plus important, je pense.
Ouais. Vous citez quelques termes, justement, Marie Trebs, dans votre livre. Les Français de souche, les souchiens, les Gaulois, les Patériètes et les Pères Dodus. Il y a même une marque qui est passée dans le langage commun.
Ça, c'est Pères Dodus, oui, c'est une marque de...
Qui est passée pour exprimer, pour dire qu'on a des Blancs, des Français. En
c'est récent, ça. C'est-à-dire, c'est mon dernier chapitre, s'appelle Retour de bâton. J'ai justement voulu montrer. Mais ça, c'est récent. Moi, quand j'étais en classe, dans l'Est de la France, au lycée de Longwy, mon nom passait presque inaperçu, il y avait beaucoup de noms polonais, et aussi des noms italiens. Et il y avait, Rital, les Polaques, mais il n'y avait pas de racisme anti-blanc à l'inverse. Les Italiens et les Polonais s'étaient réappropriés le mot, je pense, eux-mêmes, comme tout à l'heure, il y a des réappropriations, mais il n'y avait pas ça. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus récent. Ça se passe depuis 15-20 ans, pas davantage. Et je pense que c'est un phénomène qu'on doit prendre en compte. Il existe.
On a parlé de le racisme qui touche toutes les souches sociales, mais je pense que quand on est riche, très riche, on oublie. Enfin, les autres oublient. C'est-à-dire que finalement, quand des Arabes du Golfe viennent au Ritz, eh bien, ils sont très bien reçus. Enfin, on voit en eux tellement d'argent.
L'argent efface l'autre.
Mais au fond, il y a un mépris.
Vous savez, les scandales financiers de la Troisième République qui mettaient entre autres en cause des Juifs riches, ça a beaucoup contribué à propager le mot youpin et le mot youtre.
Moi, je trouve le plus dangereux, le plus grave, c'est lorsqu'un parti politique utilise l'instinct ou disons le comportement raciste comme socle pour gagner les élections. Et ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit qu'on s'appuie là-dessus.
Hein? Ça l'est, mais il y a des stratégies d'évitement.
Oui, bien sûr.
Quand Monsieur Le Pen, sous couvert d'une formule de politesse, pour montrer qu'il n'est pas anti-arabe, dit Monsieur Mohamed,
oui.
C'est de l'humour. Et c'est quand même un propos extrêmement raciste caché derrière une formule de politesse. Alors on a beau interdire, est-ce qu'on peut interdire à Monsieur Le Pen de dire ce genre de choses?
Il y a la loi pour ça, mais
c'est
le problème, c'est qu'on la contourne tout le temps. Mais il y a des partis politiques qui ont fait vraiment leur programme à partir de la haine et de la peur des autres.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion.
Never on such a night, I've loved us. such a night of lovers' bed. I never on such a night of lovers.
Jean-Louis Murat, c'était Jim.
La tête au carré. Sur France Inter.
En dehors de cet enfant, ce sont des adultes qui s'expriment. Ce sont des personnes qui ont parfois eux-mêmes des engagements politiques. Donc,
vous parlez de cet enfant qui vous a insulté.
Oui. Oui. Voilà, je ne sais pas. Il y a tellement plus de monde à qui parler de façon intéressante que je ne vois pas pourquoi je gaspillerais une seconde de ma vie à parler à ces gens-là. Mais il faut parler à ceux qui subissent ces agressions. Ils sont extrêmement nombreux. Il faut parler à ceux qui restent indifférents face à cela. Il faut parler à ceux qui croient que c'est banal, qui le croient profondément. Il faut parler à ces gens-là. Mais certainement pas à ceux qui ont fait le choix d'envahir l'espace public depuis plusieurs mois, d'occuper cet espace public par une espèce de convergence des obscurantismes, des conservatismes, des refus de la présence de l'autre. Et quel que soit l'autre, hein, c'est vraiment l'autre qui pense différemment, même s'il leur ressemble comme deux gouttes d'eau. Donc, ce sont ces combats-là qu'il faut mener.
Voilà la voix de Christiane Taubira, ici même dans la matinale d'Inter en mars 2014. Tahar Ben Jelloun, justement dans les préconisations que vous faites, pour compléter peut-être ce que vient de dire Christiane Taubira, travail d'information, ça vous le disiez, qui doit être mené auprès de l'ensemble des Français, sur ce qu'est aujourd'hui le paysage humain au fond, c'est ça aussi l'idée?
Il faut parler à tout le monde, bien sûr, et il faut faire que la justice se fasse à chaque fois qu'il y a une incitation à la haine raciale. Il faut être vigilant, de toute façon, et accompagner la pédagogie par une vigilance judiciaire. De toute façon, il faut qu'on se sente concerné, parce que c'est pas normal qu'on continue aujourd'hui quand même, après tant d'épreuves, après tant de luttes, à continuer à creuser le fossé entre les uns et les autres, pour des raisons souvent politiques, alors que la France a toujours été une terre d'asile, une terre d'accueil, une terre de mélange, de métissage, et qu'il faut garder à cette France son visage humain, hospitalier et accueillant.
Ouais, et inscrire cette lutte contre toutes les discriminations dans l'enseignement.
Bien sûr, mais je reviens, moi, Simone Dada, il faut aller à l'école et parler aux enfants, c'est plus important.
Marie Treps, les préconisations de la linguiste, tiens, pour essayer de lutter contre ces mots.
On ne peut pas empêcher ces mots-là.
Les expliquer en tous les cas.
Alors, la question de, effectivement, Internet a fait que ce qui se produisait plus volontiers dans l'espace privé, c'est vrai. J'imagine les souvenirs de repas, de famille. Il y a toujours un beau-frère raciste, en l'occurrence. Entre la poire et le fromage, tout d'un coup, il y a un crouillat qui apparaît. C'était des choses qui étaient intolérables et qui se produisaient dans l'espace public. Aujourd'hui, c'est démultiplié parce que l'Internet est devenu un espace... C'était dans l'espace privé et est devenu un espace privé aujourd'hui. Et puis, les interdictions dont on a parlé tout à l'heure, ont généré des stratégies d'évitement qui font que le racisme est toujours là, même sans ces mots-là. Mmh. À un moment de la rédaction de ce livre, je me suis dit, tiens, au fond, c'est un livre du passé. Comment ça s'est passé? Mais aujourd'hui, on les emploie plus.
Ouais.
En même temps, dire que la France a été toujours une tradition d'hospitalité, oui, mais aussi une tradition de racisme et d'exclusion. Alors, si le vieux racisme a disparu, le racisme au sens propre déjà, autre race, puis le racisme xénophobe, et puis le racisme... Bon, si ça a disparu, il y a aujourd'hui une nouvelle forme de racisme qui met en avant des cultures et voire des religions différentes.
Tahar Ben Jelloun.
Oui, mais alors là, évidemment, quand on parle maintenant de l'islam, c'est accompagné d'un nouveau racisme parce que c'est malheureusement, il y a eu un amalgame entre cette religion et le terrorisme. Et en ce moment, les musulmans ne sont pas bien vus, ils ont une très mauvaise image et ils en souffrent énormément.
Bien sûr.
Tout à l'heure, quand on parlait du racisme anti-blanc, moi je pense que c'est vrai qu'il y a un racisme anti-blanc, mais qui est beaucoup moins répondu moins grave que le racisme contre les juifs, par exemple, ou contre les musulmans aujourd'hui, parce qu'il y a une situation de crise qui favorise ces espèces de rejets et qui est une espèce de haine et de névrose qu'on jette sur les autres, alors que finalement, ça ne résout pas le problème de haïr les autres. Il ne s'agit pas de les aimer, mais simplement de les respecter. Et ça, c'est quelque chose, c'est une pédagogie qu'il faut faire aussi dans les médias et dans les écoles, parce que finalement, on a bien fait la distinction entre l'acte terroriste, qui n'a rien à voir avec la religion, et ne pas confondre les deux, pas les confondre.
C'est vrai que les situations de crise sont propices au racisme. Quand l'être humain a disparu derrière sa caricature, à travers ces mots-là, et qu'il y a une situation de crise, le pire peut se produire. Ce ne sont pas des Sénégalais qu'on a envoyés dans les tranchées, mais des bamboulas, et ce ne sont pas des humains qu'on a raflés pendant la dernière guerre mondiale, mais des youpins.
Allez, je termine par quelques messages des auditeurs. Myriam nous dit, ce n'est pas parce que M. Guerlain a dit qu'il avait travaillé comme un nègre qu'il a été condamné par la justice, mais parce qu'il a ajouté, si tant est que les nègres travaillent.
Oui, c'est juste.
Ouais. Fanny nous dit, j'ai grandi dans une ville minière du Nord-Pas-de-Calais, les derniers arrivés pour travailler dans les mines étaient les maghrébins, et il y avait une expression qu'on utilisait fréquemment, du travail d'arabe, pour un travail bâclé. Je me suis rendu compte de son côté violent et raciste que très tardivement, en quittant cette ville, pourtant chez nous, c'était courant de l'utiliser.
C'était courant, oui. Mais c'est... Ici, ça prend une dimension particulière. Quand on sait, j'ai écrit ça dans d'autres circonstances, que pour les Néerlandais, faire du travail à la française, ça veut dire exactement la même chose.
Exactement, oui.
On revient à ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est quelque chose d'universel.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Marie Treps et Tara Benjelloun. Marie Treps, donc La Fabrique des Insultes, Maudit Mot, c'est aux éditions Tohu Bohu. Et puis Tara Benjelloun, toujours Le Racisme expliqué à ma fille, toujours d'actualité avec cette nouvelle édition augmentée. Et puis plus récemment encore, Le Terrorisme expliqué à nos enfants, que vous signez toujours au Seuil, Tara Benjelloun.
Tout à fait.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, vous vous intéressez aux analyses sanguines qui sont destinées à rechercher des allergies alimentaires.
Oui, c'est une pratique assez répandue malgré son coût, qui consiste à réaliser un bilan sanguin à la recherche d'immunoglobuline G, c'est tout simplement des anticorps, censés être spécifiques de certains aliments. Un taux sanguin élevé traduirait une allergie, censé expliquer divers symptômes, digestifs ou non. Ça coûte cher, c'est pas remboursé, c'est rarement prescrit par des médecins, plutôt par des naturopathes, et en tout cas jamais par des allergologues.
Alors pourquoi ?
Eh bien parce que ça ne sert à rien.
Allons bon.
Et oui, et le docteur Habib Chaban explique pourquoi dans une mise en garde très bien faite sur le site de la Société Française d'Allergologie. En fait, la présence de ces anticorps n'est pas synonyme d'allergie. Cela signifie simplement que nos tissus internes ont été en contact avec des protéines contenues dans l'aliment incriminé. On peut très bien avoir beaucoup d'anticorps contre un aliment et ne pas souffrir de sa consommation, et puis au contraire, ne pas avoir d'anticorps contre un autre aliment alors qu'on le digère très mal ou qu'on y est allergique. Bref, les résultats de ces analyses sont peu fiables.
Et pourtant, elles ont énormément de succès.
Oui, mais en fait, c'est le bouche à oreille, car certains patients, après avoir supprimé les aliments incriminés par ces analyses, s'en sont trouvés mieux. Mais comme l'explique le docteur Chaban, ce n'est pas une preuve. Beaucoup d'aliments ainsi éliminés sont mal digérés globalement par une majorité d'entre nous, et les simples conseils d'une diététicienne auraient abouti au même résultat sans nécessité d'analyse. Et de nombreuses autres sociétés savantes d'allergologie dans le monde entier ont aussi pris fermement position contre la pratique de ces analyses, car non seulement elle risque de conduire à des régimes injustifiés, mais le risque le plus important est de passer à côté d'une véritable allergie ou d'une intolérance alimentaire parce qu'elles n'ont pas été détectées ou qu'une maladie grave de l'intestin par excès de confiance dans le résultat de ces analyses.
Vous avez un souvenir particulier ?
Oui, je me souviens très bien du cas d'une jeune femme qui était venue me voir car elle souffrait de douleurs abdominales handicapantes depuis des années. Elle avait fait tous les examens imaginables, elle était venue avec une pile de dossiers dont une recherche d'allergie au gluten. Elle n'était pas particulièrement stressée, n'avait aucune raison de souffrir autant. Comme je le fais habituellement, je lui demande de revenir me voir après une semaine de régime sans gluten, puis une autre sans lactose. C'est facile, on commence par là. Eh bien, l'éviction du gluten a fait disparaître tous ses symptômes. Elle était à la fois soulagée, mais surtout furieuse de toutes ces années perdues à cause d'analyses trompeuses. Bref, les allergies et les intolérances alimentaires existent bien sûr, mais écoutez les conseils des allergologues. Ne dépensez pas votre argent dans des analyses peu pertinentes et mangez plutôt les choses qui vous réussissent.
Merci Dominique. Le lien vers l'article dont vous nous avez parlé est très complet d'ailleurs et sur le site de la Société française d'allergologie et il est sur la page de votre chronique sur franceinter.fr. Merci beaucoup.
À jeudi prochain.
À jeudi. C'est terminé pour notre Tête au Carré. Merci à Thierry Dupin qui assurait la programmation musicale de l'émission. Dans un instant, vous retrouverez Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles. Et demain, vendredi, ce sera le club des Têtes au Carré. Bon après-midi à tous et à demain.